Chapitre 3. Je suis curieux de toi, quand j'ai envie de découvrir ton monde. Dans le sourire, dans le regard d'Emma qui se pose sur Adèle, il y a de la curiosité. Adèle est plus jeune, elle n'a pas les codes de cette boîte de nuit gay. Elle vient d'un autre monde. Sa présence dans ce club, sa différence criante, intrigue Emma qui veut la découvrir, se sentir attirée par l'inconnu. Cette curiosité pour l'autre, pour le monde de l'autre, qui déjà se devine, est un signe de la rencontre différent du précédent. Il ne s'agit plus ici de se sentir étrangement proche d'un autre, inconnu l'instant d'avant, mais d'avoir envie d'aller vers cette différence. Même si elle ne nous est pas familière, nous sommes attirés par ce qui nous est étranger. Rencontrer quelqu'un, c'est se trouver projeté au seuil d'un monde nouveau, happé par l'envie de l'explorer. C'est une invitation au voyage. Il peut être géographique et culturel lorsque l'autre est d'ailleurs ou vient d'un milieu différent. Bref, porte une promesse d'exotisme. Mais il peut aussi se faire au sein du même milieu socioculturel. Le voyage peut avoir lieu en traversant les frontières ou en traversant la rue, en allant vers un autre très éloigné ou proche de nous. Son monde est de toute façon toujours différent, du simple fait qu'il décentre notre regard, nous offre un autre point de vue. Out of Africa, le film aux 7 Oscars de Sydney Pollack, raconte la passion amoureuse entre la romancière Karen Blixen, jouée par Meryl Streep, et Denise Finch-Hatton, un aventurier incarné par Robert Redford. La rencontre entre cette aristocrate danoise et le chasseur anglais prend l'apparence d'un choc des cultures, de la confrontation de deux mondes. Elle est la riche propriétaire d'une exploitation agricole, lui, un pilote d'avion épris de liberté. Dans sa plantation de café, Karen dirige une dizaine d'employés, lui mène sa barque en solitaire. Elle est une conteuse, parlant aussi bien qu'elle écrit, lui un taiseux. Dans les regards, échangés par Meryl Streep et Robert Redford, on sent dès le début naître cette fascinante curiosité. Pas de coup de foudre ici, mais le désir intense et réciproque de découvrir l'autre. Leur rencontre a lieu en pleine savane. Le train dans lequel Karen voyage marque une pause pour que Dennis charge des défenses d'éléphant. La baronne ne descend pas, le chasseur ne monte pas à bord. Ils ont juste le temps d'échanger quelques mots et le train repart. Juste le temps de faire naître l'envie d'en savoir plus. Au cours de leur aventure amoureuse, on verra cette curiosité s'amplifier, tant l'énigme de l'autre se montre difficile à percer. Plus il s'y efforce, plus elle s'épaissit. C'est d'ailleurs là le véritable sujet du film, mis en scène pour nous faire sentir cette profondeur du mystère de l'autre. Ainsi, on assiste à trois reprises, à une scène de Karen et Denis dînant à la bougie. Cette répétition d'une même scène est une prise de risque. Elle pourrait provoquer l'ennui chez le spectateur. Mais il n'en est rien, car Sydney Pollack y donne à voir les ramifications de cette curiosité pour le monde de l'autre. Il montre comment elle se nourrit des informations distillées, des silences, des non-dits, comment elle fait émerger un désir sensuel qui n'était pas premier. Dans une autre scène, Karen raconte une histoire après le repas, et Denise la regarde en silence. Elle ne parle pas directement d'elle, mais à la manière dont elle raconte, il entre un peu dans son monde. Plus tard, dans une scène devenue culte, Denise lave les cheveux de Karen avec l'eau tirée d'un ruisseau. En levant les yeux vers Denise, elle part d'un coup si loin. Sydney Pollack s'attache toujours à filmer cette curiosité pour un ailleurs qui vous rappelle au cœur tremblant de la rencontre. Viens, je t'emmène au voyage dans mon monde. Vous ne désirez jamais quelqu'un ou quelque chose, explique Gilles Deleuze dans son abécédaire, à la lettre D comme désir. On désire un ensemble. Ou plus exactement, on désire dans un ensemble. On désire tout un monde. Celui qui est associé à l'être rencontré et dont on n'en devine d'abord que les reliefs. Un monde fait d'habitudes, de gestes, d'amis et d'ennemis, d'émotions, de perceptions, de souvenirs. Gilles Deleuze synthétise une métaphore développée par Marcel Proust dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». On ne désire pas simplement une femme, mais tout un paysage enveloppé dans cette femme. La rencontrer, c'est avoir envie de déplier ce paysage pour s'y promener. C'est aimer l'idée que cela prendra du temps, que l'on ne sait pas précisément ce que l'on va y trouver. Désirer, dit encore Deleuze, c'est construire un agencement, construire un ensemble autour de l'objet du désir. La curiosité et le désir ne prennent donc pas simplement l'autre comme objet, mais englobent tout cet agencement, cet ensemble construit autour de lui. Je suis curieux de tout ton univers, de tout ce qui est relié à toi, agencé autour de toi. Cette curiosité pour l'autre est une vertu. Cette curiosité pour l'autre a une vertu. Elle dure. Surconnecté, sollicité de toutes parts, interpellé sans cesse par des notifications de nos smartphones, nous risquons de perdre le sens de la durée, de la construction, de l'approfondissement des choses et des liens. Curieux de tout, nous ne le sommes plus et de rien. Curieux de tout, nous ne le sommes plus de rien. La vraie curiosité demande du temps. Rencontrer quelqu'un, c'est découvrir un monde si vaste que nous n'en ferons peut-être jamais le tour. Sentir en soi une curiosité qui ne se tarira pas de sitôt. Comprendre que le mystère d'un être ne se dissipe pas en quelques jours. Voilà une manière d'échapper à l'agitation de l'époque. Et l'une des belles promesses de la rencontre. Quel bonheur! Quelle surprise d'être enfin arraché à l'éparpillement par la puissance d'une curiosité maintenue, insistante. Avant même d'avoir l'idée de Out of Africa, Sidney Pollack a été un lecteur de Karen Blixen, de La ferme africaine, bien sûr, son grand roman autobiographique, mais également d'un recueil de nouvelles, Anecdotes du destin. Il souhaitait poursuivre l'exploration de son monde, approfondir cette rencontre, mieux connaître celle dont il avait tant aimé les livres. Alors, il a décidé d'adapter ses mémoires au cinéma. Out of Africa est né de cette curiosité pour le monde de l'autre, pas étonnant qu'il la raconte si bien. J'ai vécu une rencontre de cet ordre avec mon professeur de philosophie de terminale, finalement devenu l'un de mes plus proches amis. Je fis d'ailleurs office, près de 25 ans plus tard, de maître de cérémonie laïque lors de son enterrement. Rencontrer Bernard Clairté, ce fut d'abord découvrir tout un monde fréquenté par Platon et Hegel, évidemment, mais dont je comprendrai plus tard qu'il l'était tout autant par des producteurs de Poligny-Montachet et de Savigny-le-Beaune, par des joueurs de tennis et des marins bretons, un monde dans lequel on circulait en vieille golf rouge et lisait autant la phénoménologie de l'esprit que l'équipe. Nous sommes nombreux à devoir à un professeur d'avoir ressenti cet élan de l'être vers un champ inconnu, d'avoir découvert tout simplement la curiosité. La rencontre d'une matière ou d'un savoir s'accompagne souvent de celle d'un être. Et la curiosité que cet être s'est suscité pour sa matière est alors inséparable de celle que nous avons eue pour lui. Aurais-je été si curieux de la pensée de Hegel ou de Spinoza si je ne l'avais pas été de la personnalité de Bernard Clairté? Regardant en arrière, je ne peux dissocier l'intérêt qu'il a réveillé en moi pour la philosophie de ma rencontre avec lui. Avec sa gouaille des faubourgs, il avait été magasinier au Halles de Paris dans sa jeunesse. Ses faux airs de Gainsbourg, ses colères un peu ridicules et ses gauloises qu'il fumait dans la salle de classe. L'univers de Spinoza était indissociable du monde de Bernard Clairté. Je trouvais soudain mille raisons de me désintéresser un peu de moi-même. Je ne le savais pas à l'époque, mais cette curiosité n'allait faire que s'amplifier au fil des années de notre amitié. Ironie de l'histoire, elle se verrait alimentée le jour de son enterrement par un élément nouveau, induisant la relecture d'une grande partie de son histoire personnelle. Lors des discours de ses frères, j'appris un élément biographique qu'il ne m'avait jamais confié et qui entrait en contradiction frontale avec son histoire telle qu'il me l'avait toujours racontée. Même mort, Bernard Clairté continuait de m'intriguer. La curiosité pour le monde de l'autre peut même lui survivre. Revoyant notre première rencontre, qui eut lieu avant la classe de terminale dans la cour du lycée, je comprends mieux aujourd'hui ce qui s'est noué à cet instant. Il discutait avec certains de ses élèves, fumeur comme lui. Je me tenais là, par hasard, à côté, et je me suis trouvé mêlé à leur discussion. Avant de remonter dans sa salle de cours, il m'a demandé dans quelle classe j'étais, et nous avons échangé quelques instants. J'étais son premier scientifique. Je ne l'aurai donc jamais comme professeur de philosophie l'année suivante, puisqu'il n'enseigne qu'au littéraire. Je me souviens qu'il m'observait en tirant sur sa cigarette tandis que nous discutions de L'étranger de Camus. J'étais sous le choc de ce roman. Il était plus nuancé. Il avait ce regard qui me serait plus tard familier, plein de sourires et de fatigue, de douceur aussi, qui vous donnait l'impression d'être lu en entier, en profondeur. Au moment de quitter la cour de récréation et de s'engager dans les escaliers qui montaient vers la salle de classe, il m'a proposé en riant de changer de voie et de le rejoindre en section littéraire. Et il a ajouté une plaisanterie sur le professeur de philosophie qui m'attendait si je restais en filière scientifique. Une vraie calamité, celui-là. Il aurait mieux fait d'être géo au Club Med. Avant d'écraser son mégot sur une des premières marches du grand escalier de bois. Quelques mois plus tard, je suivais son conseil et je changeais de section. J'étais tellement curieux du monde de Bernard Clairté que je décidais de m'y aventurer.